m'appelait Chips, c'est ce feuilleton américain, belle gueule, toujours en train de sourire, toujours en train d'essayer de plaire aux autres, gentil, enfin voilà.
Bien sûr, Henri, il était beau, ça c'est sûr, c'était un beau garçon. Mais je crois que là, la beauté, ça a même plus été, c'était plus ce qui comptait, quoi.
On ne peut pas cacher un visage. Et le visage, bien entendu, c'est la personnalité, c'est les expressions, etc. Et c'est tout ce côté vivant, malheureusement, qui se retrouve brutalement mutilé et abîmé lors d'un accident.
Mais c'est du passé, tout ça.
Qui est Henri? Un reportage de Diana Ragou.
Le touchez pas, il est foutu. Et vraiment, cette voix déconfite, il est foutu. Ça sert à rien. C'est vrai que quand on me voyait, ça c'est des amis, donc motards, qui m'ont dit quand on est arrivé, on voyait, c'était ton crâne, il pissait le sang comme une fontaine. Bon, on t'avait pas reconnu puisque tu avais plus de visage. On a reconnu ta moto à ton numéro de moto. Et quand on a ouvert ton portefeuille, qu'on a vu l'échographie de ta fille, on a su que c'était toi.
J'étais à mon travail, donc je travaillais au ministère des Finances à Paris, et Henri était donc motard à l'escorte du président, mais il était détaché auprès du ministère, du ministre du Budget, Nicolas Sarkozy, donc à l'époque. Et donc ce sont les collègues d'Henri qui sont venus me prévenir à la cantine. Ils m'ont dit, voilà, Henri a eu un accident, puis ils vont t'emmener le voir à l'hôpital. Alors là, je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment très important là.
Paris, hôpital Saint-Joseph, unité des blessés de la face, galerie Saint-Jean, premier étage.
Je suis le docteur Philippe Pélissier. Alors là, je suis en présence du scanner de monsieur Fetener Henri du 27 mars 2001. Je sélectionne donc la coupe frontale. Qui comprend le crâne et la face. Cette coupe met en évidence un effondrement du soutien osseux de l'œil, ainsi que la projection vers le bas et vers l'extérieur de la pommette, avec une fragmentation de celle-ci, donc en trois fragments. Ce qu'il faut faire, c'est un rétablissement donc du plancher de l'œil pour prévenir le risque d'enfoncement de l'œil dans la cavité orbitaire, la remise en continuité de l'arcade zygomatique, et par ailleurs des gestes sur la peau et la graisse afin de rétablir la symétrie.
On est sorti de l'ascenseur et en fait, Henri, il le sortait du scanner. Et il était allongé sur un brancard et avec le drap sur la tête, bien sûr, sur tout le corps, quoi. Donc on aurait pu penser qu'il était mort. Et c'est vrai que ça, cette image-là, ça m'a. Oh! Là, j'ai pris conscience que c'était vraiment très grave, quoi.
Alors on a tout refait, la mâchoire, le palais, le nez, les orbites, les yeux, enfin tout. C'était un jour où il faisait bon, j'étais pas pressé puisque je devais aller chercher une personnalité, donc j'étais pas du tout pressé. Je me rendais à mon travail en tenue et je dépassais un camion. Et je me souviens encore que ce camion, j'étais sur ma voie et j'étais en train de le dépasser. Et ce camion était en train de me serrer. Et au moment où je me suis retrouvé complètement coincé entre la rambarde de sécurité, je me suis dit, le camion, il m'a pas vu, donc j'ai tapé dans le camion, et quand le camion s'est aperçu que j'étais là, il a plus bougé. Et au moment où il a plus bougé, bah, j'ai reçu un truc comme si on m'arrachait la tête dans ma tête, et puis c'est tout ce que je me souviens. C'est parce que lui, il avait vu devant une barre de fer qui était sur la route, et il essayait de l'éviter pour éviter de rouler dessus. Mais comme il n'a pas voulu me serrer, ou parce qu'il a eu peur du gendarme, il est resté à sa place et il a roulé sur la barre de fer, Mais la barre de fer, au lieu de rester sur la route, elle est venue prendre la forme de mon visage. Donc cette barre de fer, elle est toujours dans un tribunal et elle a la forme de mon visage. Elle a pris l'ovale de mon visage. Et c'est une barre quand même qui pèse 15 kilos.
Quand j'ai vu son visage, quand je suis rentrée dans sa chambre, on m'avait dit, on m'a prévenu, on m'a dit, vous savez, Henri, bon, il a son visage qui a enflé, c'était impressionnant. J'ai vraiment, bon, j'ai reconnu son, en fait, je l'ai reconnu grâce à ses doigts de pied, quoi. C'est tellement, c'était impensable. Il avait un œdème et donc il avait le visage. C'était, oh là là, incroyable, quoi. Et bon, bah, j'ai pas pleuré parce que bon, je suis quand même assez dure, quoi. Et puis je lui ai dit, bah, faut que je fasse attention parce que peut-être il m'entend. Donc, je n'ai pas voulu lui montrer que j'étais, que j'avais de la peine et que ça me choquait, quoi. Donc, j'ai fait comme si tout allait bien. Je lui ai dit, surtout, je l'ai rassuré. Je lui ai dit que j'allais bien, que le bébé allait bien, que Charlène, qui était dans mon ventre, allait bien. Enfin, que tout se passait bien et qu'on allait s'occuper de lui, qu'il allait s'en sortir et tout.
Bon,
Et
j'ai
voilà. Et
compris
donc,
que j'avais
j'ai
eu un
toujours gardé
accident,
ça.
j'ai compris que je pouvais plus parler, que j'étais handicapé, que j'étais si, que j'y verrais plus, que j'avais plus de visage, que j'avais. Ben, j'ai pensé qu'à une chose, c'était à ma gueule. Et donc ma femme m'a dit, écoute, te lamente pas, t'es plus tout seul maintenant, t'as ton bébé, t'as moi qui suis là, donc ne pense pas qu'à toi. Et à partir de ce moment-là, bon, j'ai pris un pet dans le caisson et j'ai dit, bon, bah, ok, je vais aller de l'avant. Je sais que je faisais peur aux gens puisque moi, j'avais pas mes yeux pour me voir en réalité comment j'étais, mais je sentais les gens qui avaient peur de moi, qui se poussaient dès que j'arrivais. Alors, dans mes débuts, je pensais toujours que c'était parce que ils faisaient attention à moi, mais non, c'est tout simplement, c'est parce qu'ils avaient peur de moi. Je leur faisais peur. Et c'est vrai que quand on est bandé comme une momie et qu'on marche comme un canard et qu'on peut pas parler parce que j'avais la bouche cousue, et qu'on semble un mort-vivant, je comprends très bien que dans le monde dans lequel on vit, où on paraît avant d'être, j'étais un petit peu une pièce rapportée et on se disait qu'est-ce qu'il fait là? Voilà.
Lyoncourt, 19 rue Loncoville, 60 240, département de l'Oise.
Et ma femme savait très bien que si je vivais, si j'allais reprendre conscience, je voulais m'isoler, je voulais être tranquille. On est dans le Vexin, on est derrière nos murs, personne ne nous voit, je peux faire ce que je veux, personne ne viendra voir si je suis tout nu, si je suis en train de courir, si je suis en train de crier, il y aura personne en train de m'emmerder.
Là, c'est donc une photo d'Henri juste avant son accident. C'était une photo de vacances. Donc, il est torse nu, on va dire bien bronzé, beau mec, belle dent blanche, enfin bref, le tombeur des dames. D'ailleurs, il avait beaucoup de succès à l'époque. J'étais très jalouse. Il avait une cour autour de lui et ça, il adorait. Et ensuite, alors l'autre photo, c'est une photo devant le ministère des Finances à Bercy. Donc il est en tenue, il est sur sa moto, en uniforme et avec tout sourire, parce que il aimait bien avoir toujours le sourire aux lèvres, on va dire, qu'on voit ses belles dents. Non, et donc c'est vrai qu'il. Il portait bien l'uniforme, Henri. Il était très impressionnant. Mais très, très impressionnant et très beau. En même temps, voilà, ça faisait un bel ensemble. La moto et le motard.
Ah oui, ma vie, je l'avais tracée, une super carrière, et puis voilà. Est-ce que bon, c'était pas pour me permettre de me faire comprendre que j'étais un peu trop imbu de ma personne auparavant et que bon, il fallait que je Peut-être parce que c'est vrai que tout était trop beau. Ma femme me disait toujours, attends, on a tout. On a la beauté, on a la santé, on a l'argent, on a. Mais on avait trop de bonheur, peut-être. Peut-être c'est ça, j'en sais rien. Mais bon, le bonheur, je l'ai toujours. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, plus mes enfants grandissent, plus je m'aperçois que avoir des enfants, c'est vraiment un bonheur extraordinaire. Et surtout avoir une femme qui croit toujours en vous, malgré que vous n'êtes plus un dieu.
Et non, je trouve qu'il a une rage de vivre même, c'est impressionnant quoi.
Mon quotidien, c'est traîner les douleurs d'un vieux, d'un accidenté, de la vie et tous ces problèmes. Une fois qu'on a fait tout le tour de tout ça, bon, on pose le pied le matin et puis bon, il y a les enfants qui disent, bon, on déjeune quoi? On fait ci, on fait ça. Bon, alors je prépare le déjeuner, je vais ci, je vais ça. Bon, la voiture est pas encore prête. Bon, je suis un peu le boy parce que je veux bien et puis bon, ça me permet un petit peu de me motiver. Et puis après, les enfants partent en cours. Et puis après, quand ma femme revient, parce qu'elle a abandonné le boulot pour s'occuper de moi. Et maintenant, bah, dès qu'on peut, bah, on essaye de s'accorder des moments un peu tous les deux, d'essayer de faire des trucs. Mais généralement, c'est pas pour les enfants, c'est pas pour nous, c'est pour les enfants qu'on fait toujours des choses. Donc on ne voit que pour les enfants, on ne pense plus à nous, on pense à nous de temps en temps comme de vieux cons, mais on pense toujours aux enfants. Parce qu'avant, j'étais l'inverse. Je vivais pour moi et je vivais pas pour les autres. Et ça, c'est. Ma femme m'a fait changer mon état d'esprit. Mon accident m'a fait tout changer. J'ai repris une autre personnalité, j'ai repris un autre visage, j'ai repris tout un aspect de moi différent. Et c'est vrai que maintenant, bon, je vis pour les autres et je vis plus pour moi. Moi, bon. Je suis une poussière terminée. Si je peux plus être utile à quelque chose, bon, ça sert à rien que je sois là.
C'est plus voilà quoi, une souffrance morale. C'est pour ça qu'il veut toujours nous faire plaisir, moi et les enfants, parce qu'il y a des fois où il a du mal à supporter parce qu'il a mal et ça lui tape sur les nerfs. Et il sait pas quoi faire pour nous faire plaisir, en fait, parce qu'il y a tellement de choses qu'il aimerait faire et qu'il peut pas faire, donc ça l'agace. C'est vrai que c'est pas évident, quoi. Mais bon.
Il y a plein de choses que je peux plus faire puisque j'ai perdu l'usage de mes yeux, j'ai perdu pas complètement le principe de marcher, de courir, puisque j'ai été greffé de partout, tous mes membres étaient repris, regreffés. Mais bon, après, faire de l'endurance, je peux plus. Faire du vélo, je peux plus. Je fais du vélo, mais bon, j'ai mes limites. Faire de l'équitation, j'ai mes limites. J'ai mes limites de partout. Donc, il faut rester quand même lucide. Et mes enfants, bon, maintenant, ça y est, ils sont passés le cap un petit peu de dire, ouais, mais t'es pas capable de faire ça. Mais c'est dur. C'est très dur. Ce qui me manque énormément, c'est de plus pouvoir enseigner comme j'enseignais auparavant. Auparavant, j'étais maître nageur, j'étais prof de gym, j'étais prof de karaté. J'aimais enseigner. Je donnais des cours. J'étais moniteur d'auto-école. J'enseignais aussi la manière de conduire. C'est une source de vie, un métier. Et c'est vrai que de plus avoir de métier, c'est un peu la mort dans l'âme que j'en parle parce que j'ai plein de cordes à mon arc, comme je disais tout à l'heure. J'ai plein de diplômes mais qui me servent plus à rien puisque j'ai plus mes yeux. Et ça, c'est très très pénible pour moi. Depuis mon accident, je me traîne un boulet et ce boulet, je l'aurai jusqu'à ma mort.
Il faut quand même effectivement ce temps de deuil, hein, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, ce sera jamais comme avant. Voilà. Quand les gens ont bien accepté, généralement, ils y trouvent largement leur compte.
C'est comme ça quoi. C'est bizarre dans la vie parce que je vous dis du jour au lendemain, voilà, ça, tout peut changer quoi. C'est pour ça que je pense plutôt au présent.
Cet handicap, faut vivre avec et puis faut faire sa croix sur différentes choses qu'on a vécues auparavant. Pas voir ce qu'on était avant, mais voir ce qu'on peut être après. Mais c'est vrai que j'ai cet avantage d'être dans une famille qui croit en moi, qui m'a toujours boosté et qui me pousse toujours pour aller de. Et maintenant, ils me freinent un peu parce qu'ils s'aperçoivent que papa est en train de prendre de l'âge et que malgré tout, il veut jouer au jeune homme. Donc maintenant, il voudrait que papa se calme un peu. Mais bon, papa, il se calme pas. Et tant que je me calme pas, pour moi, c'est plein pot. Ce qui est fait est fait. Et puis bon, c'est pour ça que je veux toujours aller de l'avant et je veux toujours que mes enfants et ma femme soient fiers de moi. Donc je veux leur démontrer qu'en fin de compte, la science s'est trompée pour moi. Mon leitmotiv, c'est de revoir.
On se rend bien compte que les demandes d'intervention de la part de ces patients-là peuvent être aussi une façon d'espérer, hein, parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et que finalement, ils ont toujours l'espérance, en réalité, d'avoir mieux ou de retrouver quelque chose encore de plus intègre. Et nous, on ne peut pas, au niveau du corps médical, leur dire que tout est fini, c'est impossible. C'est impossible de dire ça, parce que même avec la technicité d'aujourd'hui, Dieu sait ce qui va se passer demain, nous sommes quand même à l'ère de la greffe du visage et de plein de choses qui se font. Donc de quel droit pouvons-nous dire que tout est fini? Donc en réalité, jamais rien n'est fini.
Je vais démontrer qu'en fin de compte, je vais. Avant de mourir, j'aimerais pouvoir ouvrir les yeux correctement et voir quelque chose. Et je pense que maintenant, la science est en train de découvrir les yeux, chose qu'auparavant, on avait fait une croix là-dessus, on n'espérait pas. Et on était en train de s'apercevoir que maintenant, des aveugles, on peut les faire voir. Mais la chose terrible pour moi, c'est que mes yeux ont explosé. La connexion entre l'œil et le cerveau se fait toujours, mais très très mal, puisque le nerf optique était en limite de rupture. Mes yeux sont vivants, mais la rétine, elle est morte. La rétine est explosée complètement. La macula, ce qui permet de voir, de faire le champ visuel, elle est complètement occulte, c'est-à-dire qu'il y a plein d'endroits qui sont morts, puisque mes yeux étaient éclatés complètement. Les hémorragies ont été stoppées à coups de laser, et ces lasers ont tout découpé dans l'œil. Mais l'avantage, c'est que la circulation du sang se fait, l'œil est vivant. Et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, et je maintiens mes yeux et ma condition physique de manière à ce que le jour où on me dit, Henri, on y va, eh ben je serai prêt, et j'attendrai pas.
Heureusement qu'il avait ce caractère-là parce que j'aime pas trop les gens faibles quoi de caractère. C'est pas quelque chose qui se voit, mais je trouve ça magnifique quoi d'avoir un tempérament qui lui a permis de voilà de rester digne.
J'ai peur que d'une chose, c'est de me retrouver tout seul. De me retrouver tout seul, que mes enfants me laissent, que ma femme me laisse. C'est le seul truc que j'ai peur. Mais bon, c'est pas pour ça que je vais être collé sur eux, que je vais. Justement, j'y prête pas trop attention et je leur montre pas que j'ai besoin d'eux. Je leur montre que papa, il fait le gros dur, et il va toujours de l'avant et il n'a pas besoin d'eux, il n'écoute pas et je fais le gros têtu. Comme ça, au moins, ils prêtent toujours attention à moi. Et bon, ce que je voudrais, c'est pouvoir voir exactement ce que je représente avec des vrais yeux et non pas savoir ce que les gens pensent de moi parce que les gens disent toujours t'es le plus beau, t'es le plus fort, t'es ci, t'es ça. Mais j'aimerais me voir en réalité ce que je suis, et ça c'est le plus dur pour moi.
Mais comme je lui dis, tu seras même plus beau qu'avant parce que toi, tu vas vieillir, mais comme on s'occupe toujours de ton physique, voilà, tu restes toujours jeune alors que moi, voilà, je vieillis et je change obligatoirement.
Chaque jour, quand je me couche ou que je me réveille, je mets du temps à ouvrir mes paupières parce que déjà, quand je suis allongé, mes paupières, elles fonctionnent pas normalement. C'est-à-dire que, il faut que je baisse mes paupières et que je relève mes paupières. Et je pense toujours que quand mes paupières vont se fermer, si elles se rouvrent, je verrai. Et ça me manque le plus.
Le physique, non, c'est vraiment, ça passe vraiment en second plan, quoi. C'est à notre
Ça joue
âge,
aussi, ça
oui,
joue. Parce que
ça
tu dis, oh,
joue,
t'as pris de la
mais
bedaine et tout. C'est surtout ma fille qui me dit ça.
ouais.
Mais toi, t'aimes bien parce que tu poses la tête dessus.
Il y a des fois, il me dit,
Tu l'as?
je suis là quand même, hein. Mais en fait, c'est parce qu'on est quand même 24 heures sur 24 ensemble. Par exemple, il va avoir quelque chose sur le visage. Il me dit, ouais, t'aurais pu me le dire. Parce que Charlène, elle lui dit, ah oh bah tiens, papa, t'as quelque chose sur la joue. Ah bah il me dit, ah oh bah maman, elle aurait pu me le dire. Mais bon, alors je dis, bah excuse-moi, mais j'ai pas prêté attention. Mais bon, parce qu'on est tout le temps ensemble. Donc c'est vrai qu'on n'est pas là toujours en train de se dévisager.
Elle me voit plus.
Je le vois. Non, je le vois de trop, donc.
La beauté, elle est plus ce qu'elle était, mais il y a le charme. Et le charme, c'est indémodable. Ça existe toujours. Et c'est le principal. Mais mon rêve, c'est pouvoir prendre une moto et faire découvrir à ma fille tous les coins que je connaissais de cette route 66. Donc, découvrir des choses à ma fille, comme moi, j'ai découvert ces choses-là grâce à des amis. Donc, les yeux, j'ai besoin d'avoir mes yeux. Et pour déjà voir les réactions de ma fille quand elle va découvrir ça, ça va être fabuleux. C'est dur. Mais c'est un rêve. Et je pense que tout rêve peut se réaliser. Quand on veut quelque chose, peut y arriver. Et puis apparaît, ça roule, hein. Ça, c'est l'expression du motard. Ça roule, c'est tout.
Je remercie sincèrement Henri et Catherine Fantener. Je remercie également le docteur Levent et le docteur Pellissier de l'hôpital Saint-Joseph à Paris. Merci également à Christophe Deleu, Loïc Loury et Pascal Doumange.